à 13h30 sur France Inter, la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Yves.
Je ne vous savais pas fan de Game of Thrones.
Ah mais j'essaie de convertir tout le monde dans l'équipe, y compris Jacques Sigal, notre réalisateur.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Game of Thrones.
Un millier de lames, arrachées par Aegon aux mains de ses ennemis vaincus, forgées au souffle brûlant de Balerion la Terreur.
Il n'y a jamais eu 1000 lames. À peine 200, je le sais. Je les ai comptées.
Jeu autour d'un trône forgé au souffle d'un dragon pour une dynastie maintenant quasi éteinte, ceux qui l'ont remplacé s'entre-déchirent. Jeu en 5 volumes déjà écrits et aujourd'hui 5 saisons de séries télé, demain peut-être 8. À première vue, on est au Moyen-Âge. Les professeurs d'histoire se rassurent en se disant que Game of Thrones, c'est maintenant l'entrée naturelle pour qui va s'intéresser à la période. Mais on est aussi bien dans l'univers visuel de la Renaissance, voire de l'Antiquité. On est surtout dans des problématiques qu'on ne peut plus contemporaines. Sur le pouvoir, où existe-t-il encore dans un monde de plus en plus fragmenté? Sur l'avenir, la menace climatique ne va-t-elle pas tout recouvrir? Les femmes n'y sont pas dominées? Les homosexuels pas dissimulés, les personnes en situation de handicap y sont très présents. Bref, en dépit des apparences, nous sommes dans un monde qui nous est proche, socialement désespérant, mais où la violence des forces de domination peut être contrariée. Podemos, nous pouvons. Pablo Iglesias, le leader d'extrême-gauche espagnol, s'avère être un passionné de la série. Les conservateurs qui pensent que l'histoire n'est qu'un manège d'intrigues qui tourne en rond y trouvent aussi bien leur compte. Game of Thrones surpasse les clivages politiques et surtout celui qui séparait haute culture et culture populaire, c'est encore un de ses traits contemporains.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Stéphane Rollet, bonjour.
Bonjour.
Cinquième saison qui a commencé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est sur le bouquet de chaîne Orange qui a pas d'heure. Est diffusée la cinquième saison. Elle est diffusée dans autant de pays qu'il y a de nationalités dans l'université Paris 8 où vous enseignez.
Oui, absolument.
C'est-à-dire 200 ?
À peu près, oui.
Ouais. Alors, vous avez fait des études sur l'Antiquité, la vision de l'Antiquité pendant la Renaissance. Et alors, j'ai vu que vous vous intéressiez au phénomène des œuvres complètes. Alors là, il n'y a pas d'œuvres complètes. Parce que l'auteur, Martine, sa plaque d'immatriculation porte sur sa voiture GRMM, ce qui veut dire ses prénoms.
George Raymond Reynard Martin, je crois.
Voilà, c'est ça. Il a écrit déjà 5 volumes, il participe au scénario de la série, mais la série a les yeux plus gros que ses livres.
Oui, enfin, en un sens, oui, peut-être. Je dirais qu'on arrive à une situation qui est quasiment borgésienne, où, en fait, on est en train d'adapter des livres qui n'ont pas encore été écrits. Et évidemment, c'est une situation qui est assez rare, c'est le moins qu'on puisse dire, même si c'est sans doute déjà arrivé.
Vous dites que c'est arrivé pour les mangas.
Oui, c'est arrivé. Enfin, un collègue, Florent Favard de Bordeaux, me disait qu'effectivement, il y a un Full Metal Alchemist, si je me souviens bien, qui a existé sous forme de manga et qui a été, et dont l'adaptation a dépassé en fait la rapidité de l'auteur, à tel point que l'adaptation a fini par être très éloignée du manga originel et qu'ils en ont fait une deuxième.
Mais alors, quand même, on va arriver à une situation extrêmement paradoxale. Les spectateurs des saisons prochaines, il peut y en avoir jusqu'à 8, ne seront pas mieux armés ou seront armés de la même manière que les lecteurs?
Non, quand même pas. Parce que, bon, d'abord, le potentiel des livres n'est pas encore épuisé, loin de là. Et là où les spectateurs, finalement, risquent d'en savoir plus que les lecteurs, de toute façon, c'est que effectivement, il se passera des événements qui n'auront pas encore été racontés dans les livres et dont on ne sait même pas s'ils seront racontés exactement de la même manière dans les ouvrages. Alors c'est ça qui est très intéressant aussi avec George Martin, c'est qu'il développe ses intrigues de façon extrêmement fouillée. Il y a un grand nombre d'intrigues secondaires et c'est vraiment un monde à soi seul, les livres.
Je vais quand même faire un petit peu de publicité parce qu'il le mérite à votre livre, à vous, trône de fer, merci, ou le pouvoir dans le sang, c'est aux presses universitaires François Rabelais, superbement édité, mais ça ne peut pas concurrencer évidemment les livres de Martine, qui se vendent à des millions et des millions et des dizaines de millions d'exemplaires.
Mais ça ne le cherche pas.
Bien sûr.
Moi, je suis universitaire, je fais de la recherche, et je suis bien content qu'il y ait effectivement des créateurs de cette qualité-là.
Dites-moi, il faut que vous nous disiez un mot de Martine, alors qui vit à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, qui a cette voiture immatriculée de la manière que vous disiez. C'est un gros monsieur de 66 ans, avec un pantalon très large, des bretelles, une casquette.
Oui, 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 absolument, c'est sa tenue habituelle. Comment dire, il a en quelque sorte mis au point cette apparence en même temps, qui est une espèce de vitrine, de la même façon que sa maison, comme on en voit des éléments dans le numéro spécial de Lire, et aussi, enfin dans la partie tout au moins, qui est accessible au public, enfin au public, à quelques personnes triées sur le volet, sa maison montre aussi un égo particulier, au sens neutre. Hein,
faisons de la publicité aussi au hors-série de Lire. Franck Olivard m'a dit, vous qui ne comprenez pas grand-chose à la question, c'est excellent pour vous. Et il y a une interview que vous donnez à l'équipe de Lire. Quand il vient en France, il est reçu comme une star. Je parle de Martine, toujours, avec sa casquette, son pantalon à bretelles. À Dijon, il est reçu sabre au clair, et à la grande librairie, on lui fait faire évidemment le rapprochement pour familiariser son œuvre avec l'esprit, le souvenir, la mémoire des Français des années 70 avec Maurice Druon.
Je lis des romans historiques depuis des années et j'étudie l'histoire depuis mon plus jeune âge. J'ai découvert Le Roi de Fer, le premier tome des Rois maudits de Maurice Druon. L'histoire est géniale. Elle est pleine de personnages extraordinaires. C'est tellement riche. Il y a du sexe et de la violence, des trahisons et des coups de théâtre. On dirait quelque chose d'écrit par Dumas. Mais ici, tout est réel. Ça s'est vraiment passé. Mais bon, je pense que Druon en a rajouté un petit peu, mais ça reste très bon.
Cette fois, je tiens ma tante Mao. Je la tiens parce que je tiens ses filles et sa cousine. Et que je vais les étrangler, crac, comme de malfaisantes belettes.
Vous les tenez.
Mais encore.
Les petites catas ont des amants.
La future reine de France et ses belles-sœurs, pincées comme des ribaudes. Les deux familles de Bourgogne plongées dans cette crotte jusqu'à la gueule. Que vous faut-il de plus? Mao perd tout crédit à la cour. Les mariages sont dissous, les héritages s'évanouissent et les espoirs de la couronne aussi.
Face à Louis Seignier, Jean Pia lui-même. Moi, je vois deux différences importantes, Stéphane Rollet. Premièrement, c'est une fabrique collective, l'écriture des Rois maudits. Il y a Edmond Charleroux, il y a Mathieu Gallet. Enfin, je parle de Mathieu Gallet, le grand écrivain anticonformiste des années 1970. Martine, il est tout seul.
Oui.
Pour les livres.
Absolument. Mais il y a d'abord une différence de taille initiale, je dirais. C'est que Martine, il écrit de la fantaisie et que Druon écrit de l'histoire. Enfin, un roman historique.
Ça, c'est la deuxième différence que je voulais vous faire dire. Oui, il parle des Capétiens et des Plantagenets.
Oui, alors, effectivement, Druon parle de cela, mais lorsque Martine dit après que, bon voilà, dans Druon, c'est génial parce que tout est réel, oui, les faits sont réels. Mais la mise en scène de Druon est une mise en scène fictionnelle. De la même façon que, même si Martine peut utiliser des références à des œuvres du Moyen-Âge, il remet tout cela dans une création qui est celle de la fantaisie et qui est liée à un univers imaginaire. Donc déjà, il y a quelque chose là de profondément différent par nature. Et on a souvent tendance en fait à rapprocher justement l'œuvre de Martine du Moyen-Âge, parce que lui-même le fait d'ailleurs. Mais il faut bien voir que ça se fait généralement par le biais de fiction plus que par le biais de la réalité historique telle que les universitaires, chercheurs de toutes disciplines, arrivent à la déterminer.
Les universitaires, ils emploient, pour se désigner, quand ils sont spécialistes du Moyen-Âge, le mot « médiéviste ». Mais au milieu du 19e siècle, on employait le mot « moyenâgiste ». Et Chateaubriand disait même qu'il y avait des amateurs moyenâgés.
Oui, sans doute. Bon, là, si vous voulez bien, je ne me lancerai pas dans un débat théorique concernant les médiévistes et le médiévalisme dont on parle beaucoup aujourd'hui. En fait, il y a bien dans Game of Thrones un aspect médiévalisant. C'est indéniable. Mais d'abord, ce n'est pas tout. Et de plus, c'est médiévalisant au sens où il y a un goût pour le Moyen-Âge, où il y a un désir de Moyen-Âge, souvent tel qu'on se le représente. Donc c'est déjà pas exactement la même chose que le Moyen-Âge tel qu'il a pu être historiquement, par exemple, ou tel que la littérature, j'entends, là pour le coup, vous disiez tout à l'heure, la haute littérature a pu le mettre en scène.
Allez, on va faire les cuistres. Comme vous, vous êtes antiquisant, vous voyez même des références à l'univers visuel de l'Antiquité, quand c'est pas l'univers visuel de l'Antiquité revu par la Renaissance.
Voire même l'univers visuel de l'Antiquité revu par la peinture victorienne qui elle-même nous pourvoit en peinture d'histoire et qui est valable aussi d'ailleurs pour la Renaissance. C'est vraiment si vous voulez, il y a tout un ensemble de strates à appliquer pour comprendre finalement comment cet univers visuel a été créé par des anglo-saxons, faut pas l'oublier, et europhiles.
Alors, europhiles. Faisons maintenant le rapprochement entre l'Europe contemporaine et le monde de Game of Thrones. Il y a une menace climatique, c'est moins présent peut-être dans la série que dans les livres, qui plane.
C'est quand même moins présent. Oui, vous avez raison, en ce sens que c'est moins développé. Mais elle est très forte et elle est imposée de suite, cette menace climatique, comme étant une caractéristique très spécifique de ce monde imaginaire. Un monde dans lequel, finalement, l'été ou l'hiver reviennent à des moments qui ne sont pas tellement prévisibles, c'est vraiment très, très curieux, très bizarre. Ça produit, en fait, des conséquences tout à fait singulières. Nous sommes dans une situation complètement différente puisque le défi climatique que nous avons à relever, nous l'avons nous-mêmes suscité. Les pauvres gens imaginés par Martin dans son monde n'ont rien suscité du tout. Enfin, peut-on penser ?
Je continue avec ma comparaison avec l'Europe que vous filez dans votre livre, Stéphane Rollet. L'Europe se protège avec des murs du danger de l'Est, avec des murs du danger du Sud. C'est au nord qu'est le mur,
oui,
dans Game of Thrones.
Oui,
Le mur d'Adrien qui...
Exactement, comme le mur
sépare,
d'Adrien...
comme un limesse, le monde barbare du monde romain.
Absolument, mais ça, le mur d'Adrien, est littéralement matriciel. Martin l'a dit un certain nombre de fois. Et effectivement, ce mur du nord protège de toutes les créatures du grand froid. Mais le bras de mer qui sépare, en fait, Westeros et Essos protège aussi de tout ce qui vient du lointain Orient. Et peut-être d'ailleurs la religion dont on parlera plus tard.
On va y venir dans un instant, mais restons un instant sur le mur. Si un homme construit un mur, dit un personnage, aussitôt en survient un second qui cherche à savoir ce qu'il y a derrière le mur. Alors au nord du mur, il y a les sauvageons.
Oui.
Et puis, beaucoup plus dangereux, autrement inquiétant, moins libre, les marcheurs blancs.
Oui, là... En même temps, si vous voulez, les marcheurs blancs sont des créatures mythiques qui vont en quelque sorte réapparaître, mais qui n'avaient pas vraiment déserté l'imaginaire des personnages que Martin met en scène. En revanche, les sauvageons, c'est une toute autre histoire, puisque ce sont en fait des peuplades qui se disent et se veulent libres, c'est-à-dire dans un modèle de société qui s'oppose totalement au modèle féodal ultra-hiérarchisé qui est celui de Westeros.
C'est pour ça qu'il faut une garde de nuit pour surveiller le mur. Parfois, les membres n'en sont pas assez nombreux et ne sont pas toujours très exacts.
Je sais que j'ai rompu mon serment. Je sais que je suis un déserteur. J'aurais dû retourner au mur pour les prévenir. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu les marcheurs blancs. Les gens ont besoin de savoir. Si vous pouvez prévenir ma famille, dites-leur que je ne suis pas un lâche. Dites-leur que je suis désolé. Pardonnez-moi, gouverneur.
Au nom du roi Robert de la maison Baratheon, le premier du nom, suzerain des sept couronnes et protecteur du royaume, moi, Eddard de la maison Stark, seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord, je te condamne à mort. Tu comprends pourquoi je l'ai fait ?
John a dit que c'était un déserteur.
Mais tu comprends pourquoi j'étais obligé de le tuer ?
On suit la tradition ancienne.
C'est l'homme qui a prononcé la sentence qui doit manier l'épée.
C'est vrai qu'il a vu les marcheurs blancs ?
Un fou voit ce qu'il voit.
Et notre technicienne, Juliette Delperroux, elle ne veut pas voir davantage parce qu'elle s'est arrêtée dans sa lecture à cet instant précis. Mais c'est notre pacte à nous aussi, Stéphane Rollet. Pas de révélation.
Oui, si vous voulez. Mais là, on ne risque pas grand-chose, puisqu'il s'agit de la toute première scène qui suit le générique du premier épisode.
Eh ben, je vous félicite pas, Juliette, vous n'êtes pas très avancée dans votre lecture. Donc, ça n'est pas dévoiler des secrets que de dire qu'après la chute de la dynastie précédente qui est passée à Essos, de l'autre côté de l'eau, à l'Est, qui reviendra peut-être, mais elle est quasi éteinte, les familles qui contrôlent les domaines du royaume des sept couronnes s'entre-déchirent, s'observent. Alors, on a entendu les Stark, et Eddard Stark parlait à un de ses enfants, là, il y a un instant. Il y a qui encore? Juliette, n'écoutez pas.
Là, vous voulez dire, quels sont ceux qui s'entre-déchirent? Ouais.
Non, mais les royaumes.
Ah, ben là, en ce moment, le moment où que vous avez choisi, en fait, ils ne s'entre-déchirent pas, puisque c'est Robert Baratheon qui, en fait, après avoir éjecté, en fait, la dynastie précédente, celle des Targaryens, dont il ne reste que Daenerys officiellement, et qui est donc à Essos. Donc, Robert Baratheon, 17 années plus tôt, après la rébellion, installe un pouvoir qui tient encore au début, justement, de la première saison.
Vous faites la comparaison avec l'Europe plus ou moins fédérée. Pourquoi? Alors, il y a Bruxelles, c'est Port-Réal, la capitale. Il y a une monnaie unique, c'est ça?
Oui, je dirais, enfin, comparer Port-Réal et Bruxelles, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Mais en tout cas, il y a bien une monnaie unique, donc le dragon. Il y a une langue unique. Là, vous me direz, ben, on n'en est pas tout à fait là en Europe. Mais enfin, l'anglais oui. pourrait être considéré comme la langue qui s'impose. De fait, il y a ces éléments-là. Il y a aussi la géographie. Si vous regardez la carte de Westeros, elle ressemble en fait à celle de l'Angleterre inversée. Bon, il y a donc des choses qui immédiatement nous signalent des possibilités de rapprochement avec notre monde.
Il y a quand même des provinces. Donc, je parlais des Stark, seigneurs du Nord, dont l'emblème est le loup. Il y a les Lannister à l'ouest, dont l'emblème est le lion d'or. Parmi les vassaux des Lannister, les Rennes de Castemer, dont l'emblème est le lion rampant aux griffes d'or. Là, on est quand même dans le médiévalisme. Il y a de l'héraldique.
Alors, il y a de l'héraldique parce que l'héraldique, justement, de Westeros, enfin, l'héraldique qu'a recréé George Martin est un système qui marche extrêmement bien. C'est un système symbolique, visuel, qui marche absolument bien et qui, d'ailleurs, a donné lieu à un merchandising extraordinaire.
Et à une chanson où on voit le lion rampant aux griffes d'or des Rhaenys de Castamere essayait de s'attaquer en vain au lion d'or de Lannister. Vous suivez toujours, Juliette.
And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Au moment qu'El Bellico, où commence la cinquième saison de Game of Thrones, le trône de fer ou le pouvoir dans le sang, aux presses universitaires, François Rabelais de Stéphane Rollet nous sert de guide. Ça s'est mal passé, là, pour le lion des...
Oh, très mal. Non seulement ça s'est très mal passé pour lui, mais ça s'est très mal passé pour la famille entière. En fait, ce qu'on a là dans la chanson, de façon symbolique, c'est l'affrontement de deux lions, le lion Lannister et le lion des Rennes. À un moment donné, la famille Rennes a, en fait, contesté le pouvoir de Tywin Lannister. En réponse à cela, il les a éliminés. Et ce que dit la chanson, c'est que la chanson met en scène tout d'abord deux lions qui se jaugent en quelque sorte. Enfin, on n'en entend qu'un, celui qui va mourir d'ailleurs. Et à la fin, on voit simplement un château dont la cour principale est en ruine et sur laquelle il pleut, avec un jeu de mots sur rains, les pluies, les pleurs, en même temps, et qui est le nom donc de cette maison.
Pluies pleurent dans la grande salle du château.
Exactement. Alors de plus, la maison reine, là, vous parliez de leurs armes, c'est l'inverse de celle de Simon de Montfort. Ah. Ça, c'est une allusion amusante que Martin s'est payée, en quelque sorte. Voilà.
Les Lannister font alliance matrimoniale avec, comment s'appelle, la dynastie qui règne à Port-Réal, les Baratheon.
Les Baratheon, oui.
Et on va maintenant pénétrer, si vous le voulez bien, dans les arcanes du pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas nécessairement seulement exercé par les souverains. Le souverain Geoffrey, par exemple, ça va être une sorte de Caligula. Il est nécessaire qu'il y ait des hommes d'État derrière lui.
C'est heureux qu'il ne soit pas exercé par Geoffrey Lannister uniquement, parce que c'est un psychopathe.
Ouais.
Et s'il n'y avait pas de pouvoir réel, si je puis dire, à savoir Tywin Lannister pour l'essentiel, mais aussi Cersei, qui malheureusement ne tient pas suffisamment son garçon, il est clair que nous aurions une dictature comparable à celle de Caligula. Malgré tout, Geoffrey réussit bien des horreurs.
Écoutez bien, Juliette, nous sommes maintenant dans les coulisses avec deux personnages. L'un s'appelle Varys, c'est l'araignée. C'est un homme qui est très informé.
Oui, c'est l'équivalent d'un ministre de l'Intérieur tout puissant, avec un service de renseignement aux ordres et taillé sur mesure, dont il fait un usage immodéré.
Et l'autre, c'est Littlefinger, auquel vous consacrez tout un chapitre dans votre livre. C'est pas son vrai nom d'ailleurs, c'est son surnom.
Non, c'est son surnom, parce qu'en fait il est issu du Littlefinger, ça veut dire petit doigt, et du plus petit des trois doigts, trois presqu'îles en fait, qui se trouvent au-dessus du Val d'Arryn.
Voilà. Alors lui, il est très informé, parce que c'est le grand argentier du royaume. Mais écoutons leurs méditations qui sont dignes d'hommes d'État.
J'ai fait ce que j'ai fait pour le bien du royaume.
Le royaume. Savez-vous au moins ce qu'il est? Le royaume est comme les mille lames des ennemis d'Aegon. Une histoire que nous nous accordons à nous raconter les uns aux autres. Encore et encore. Jusqu'à en oublier que c'est un mensonge.
Mais que nous resterait-il si d'aventure nous abandonnions le mensonge? Le chaos. Un précipice béant attendant de nous engloutir.
Le chaos n'est pas un précipice. Le chaos est une échelle. Nombreux sont ceux qui échouent en tentant de la gravir et qui n'ont plus jamais l'occasion d'essayer. La chute les brise. Certains ont l'occasion de la gravir, mais s'y refusent. Ils s'accrochent au royaume, ou au Dieu, ou à l'amour. Illusion que tout cela. L'échelle seule existe. L'ascension est la seule réalité.
Donc le pouvoir, c'est comme l'amour. Le plus intéressant, c'est quand on monte l'escalier. Et après, où réside-t-il vraiment?
Oh, ça c'est plus compliqué. Le pouvoir, tout au moins tel que Littlefinger le voit, est d'une manière qui effectivement est plutôt contraire à la tradition à Westeros, il le voit comme quelque chose qui se gagne et non pas quelque chose qui se transmet simplement. Donc pour lui, le chaos, c'est une source d'opportunité. Et il retrouve là en fait la pensée antique sur la fortune des grands hommes, la fortune d'Alexandre, la fortune de César, qui voyaient en eux-mêmes la source de leur réussite. En fait, ce qui compte d'une certaine manière, c'est ce que Machiavel appellera la virtu, c'est-à-dire un mélange entre le courage, l'intelligence, l'opportunisme et la chance. Et c'est ainsi qu'on gravit l'échelle du pouvoir.
J'aime bien vos références à l'Antiquité ou à Machiavel, mais moi je ferais plus volontiers des références aux contemporains. Le pouvoir réside là où les hommes imaginent qu'il doit résider.
Pensez
très
très moderne.
L'Élysée, des considérations qu'on fait sur l'Élysée.
Croit-on vraiment aujourd'hui que le pouvoir réside à l'Élysée? C'est une question qui mériterait peut-être d'être posée.
Podemos, vous avez vu la référence que j'ai faite, encore une référence très contemporaine, à Pablo Iglesias, leader d'extrême-gauche espagnol, qui écrit, comme vous, sur la série Game of Thrones, et
sort cette semaine un livre de Mathieu Bonneville, Mathieu Pote Bonneville, c'est celui qui a formé deux générations de cagneux d'extrême gauche. Et il s'intéresse à Game of Thrones. Pourquoi ?
Ça serait bien difficile de parler à sa place. Disons que, pour tout au moins le leader de Podemos, j'aurais peut-être quelques idées. D'abord, vous remarquez qu'il y a un peuple qui se dit peuple libre et qui ne tolère aucune suggestion, ni même de s'agenouiller devant un maître, c'est celui des sauvageons, donc les wildlings en anglais. Il y a aussi d'autres peuples qui ne sont pas libres, mais qui sont libérés, en voie de libération, qui sont libérés justement par l'héritière, la dernière héritière des Targaryens, à savoir Daenerys Targaryen. Et là, on voit finalement le processus de la libération et comment aussi, après avoir été libérés, des esclaves, en fait, ne sont pas forcément libres. Que, en fait, il ne suffit pas de rompre les chaînes matérielles, mais qu'il faut aussi rompre les chaînes psychologiques. C'est le plus dur.
Je vous propose un dernier rapprochement que vous tentez d'ailleurs dans votre livre quand vous parlez de l'athéisme. Longtemps, le royaume des sept couronnes a été un monde de tolérance jusqu'à ce qu'apparaisse aux côtés de Stannis, nouveau roi, son épouse, qui est sectatrice d'une religion évidemment épouvantable, puisque c'est une religion avec un dieu unique, une religion monothéiste. Et c'en est donc fini de la concorde, et c'est le temps des bûchers que la reine Célise regarde avec satisfaction.
Accepte ces gages de notre foi, ô Seigneur. Garde-nous de l'obscurité.
Sire, je vous ai été fidèle.
Tu es le soleil qui nous réchauffe. Tu es l'étoile qui nous guide. Seigneur de la lumière, protège-nous, parce que la nuit est sombre et pleine de terreur.
Lord Florent était votre beau-frère. C'était un hérétique. Il adorait les dieux de ses pères et de leurs pères avant lui. C'était aussi les dieux de vos pères.
Je lui ai ordonné de mettre à bas ses idoles, il a désobéi.
Combien de navires avait-il apporté à votre cause? Combien d'hommes?
Vous avez vu, Sœur Davos? Ils ont rejoint notre Seigneur. Leurs péchés ont brûlé avec eux. Vous avez vu?
Je suis sûr qu'ils vous en sont gré, ma reine.
Alors la critique du monothéisme... C'est très contemporain.
C'est très contemporain, c'est vrai.
Ça flirte avec l'esprit du temps.
Oui, peut-être, sauf que tout cela a été écrit il y a 20 ans. Donc ça, c'était déjà un peu moins contemporain, c'était en un sens plutôt visionnaire à l'époque. Et surtout, on a une religion monothéiste qui est très particulière, puisqu'elle est d'abord animée par une femme à la plastique impeccable, vous en conviendrez, et qui n'est pas du tout...
Non, on a entendu que le doublage n'est pas toujours impeccable.
C'est vrai, pas toujours tout à fait éloquent. Mais malgré tout, donc, cette femme qui littéralement dirige une secte monothéiste, c'est quand même extrêmement original. Et en même temps, il faut bien dire qu'il y a là une menace sur tout le monde de Westeros, menace qui en fait n'a pas cessé de se préciser au cours des quatre saisons. Si bien que, sans vouloir faire trop de révélations, au seuil de la cinquième saison, on se demande jusqu'où ce courant monothéiste intolérant et fanatique va bien pouvoir aller parce qu'il a réussi déjà à remporter bien des succès.
Monsieur le spécialiste des choses antiques, vous avez quand même senti l'odeur du bûcher. Là, on est dans le médiévalisme.
On est dans l'image qu'on attend du monde médiéval. C'est-à-dire qu'on est dans l'image qui est déjà dans le Nom de la Rose d'Umberto Eco. On trouvait ça aussi, d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans Maurice Druon avec Jacques de Molay sur son bûcher. Le bûcher pour hérésie ou pour, disons, contestation du pouvoir, c'est quasiment un topos quand on parle du Moyen-Âge. C'est beaucoup moins un topos historique.
Merci à vous Stéphane Rollet, Trône de Fer, le pouvoir dans le sang, aux presses universitaires, François Rabelais.
La bataille est terminée. Nous avons gagné.
J'ai cité Juliette Delperroux, c'est chez J'ai lu Pygmalion que sont publiés les livres de Martine, Jacques Sigal. Je ne sais pas s'il est converti à votre foi En Martin, c'était notre réalisateur, j'ai cité aussi dans l'émission, Franck Olivard. Mathieu Vidard, 2015, revenons à l'exact contemporain avec vous.
L'année internationale des sols, Jean, et on va en parler pour évoquer entre autres l'appauvrissement généralisé des sols.
Et nous demain, eh bien c'est un cinquantenaire, celui du projet de grande société du président Johnson. On a un peu oublié les idées fondatrices de ce président démocrate qui ont été contredites dans la pratique par la guerre du Vietnam qui l'a hélas nourri. Les 14h, vous écoutez France Inter.